carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Archimboldo, singulier personnage. Qui ne connaît ces évocations insolites de monstres marins, grouillants de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules de requins et autres spécimens de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille, pour en faire surgir le portrait de l'eau, par exemple. Ou encore, dans l'une de ses fameuses saisons, son évocation du printemps, tête constellée d'une mosaïque de fleurs, ou celle de l'été, aux joues de pêche mûres, au menton en poire, aux cheveux ébouriffés d'épis de maïs, piqués de cerises, framboises ou prunes. Toutes ces têtes anthropomorphes ont rejoint l'imagerie familière de notre enfance. Ce n'est pourtant qu'en 2007 qu'une importante rétrospective, la première exposition monographique au monde, a été organisée au Musée du Luxembourg à Paris. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne et puis à Prague, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Et il est vrai que son siècle avait engendré des Bruegel, des Michel-Ange, des Titien et autres Véronèse, et un Leonardo à la fin de sa vie. Mais Archimboldo, au talent si unique et polyvalent, pourquoi s'est oubli durant plusieurs siècles? Carrefour des Arts a invité Madame Patricia Nitti, directrice des projets Renaissance au Musée du Luxembourg, pour nous en éclairer les raisons. Madame Patricia Nitti, bonjour.
Bonjour.
Canal Académie est très heureux de vous recevoir sur son antenne. Vous accompagnez la plupart des grandes expositions au Musée du Luxembourg, qui a coutume de prêter ses cimaises à un artiste de la Renaissance italienne, en alternance avec une figure de l'art moderne, grâce à quoi nous avons pu admirer l'univers d'un Raphaël, d'un Botticelli ou d'un Titien dans vos murs, et maintenant d'Archimboldo. Alors, tout d'abord, pourquoi cette disparition brusque de la scène publique à la fin du XVIe siècle? Quelle explication en donnez-vous, Patricia Nitti?
Je pense une explication très simple, c'est que dans cette période où il se passait énormément de choses, où Archimboldo a été sûrement un des précurseurs de la manière, il est balayé par ses successeurs qui sont magistraux. Caravage et l'apothéose.
Ah oui, absolument. Oui. Oui.
Il est tout simplement balayé, oublié.
Parce qu'il était très à la mode et puis la mode est passée.
Et la mode est passée.
Oui, oui. Et d'ailleurs, qui était ce Giuseppe Archimboldo? Ce que nous savons en tout cas, c'est que sa vie comporte de larges zones d'ombre, mais vous pouvez peut-être quand même nous donner quelques repères biographiques ou aussi dans quel cadre historique s'est passée sa carrière. On sait à la cour des Habsbourg, il fut au service de pas moins de 3 empereurs, mais il y a quand même tout un contexte intéressant à découvrir.
Alors, Giuseppe Archimboldo est né en 1526. Contrairement à ce qu'il a raconté à ses biographes, et aujourd'hui on sait qu'il a menti en déclarant qu'il descendait d'une noble famille pré-carolingienne dont la tombe était dans la cathédrale de Milan. Il est d'une famille tout à fait honorable, d'artisans. Il est fils de Biagio Archimboldo, qui est un artisan peintre qui travaille dans la cathédrale de Milan. Il va commencer à peindre avec son père et il va rentrer vers l'âge de 20 ans. D'abord, il va sûrement avoir des rapports très fréquents avec une académie qui est l'Académie de Lomazzo, qui est l'Accademia di Val di Blegno, ou fréquenté par beaucoup d'élèves de Léonard de Vinci. Mais je pense que c'est très important après pour son évolution.
Oui, parce que je crois son père était ami de Bernardo Luini, qui, lui, possédait des fameux carnets de dessins de Leonardo da Vinci.
Oui, Biagio Archimboldo était très lié à Bernardino Luini, qui était l'élève privilégié de Léonard de Vinci. Et il possédait des carnets de dessins. Et sûrement, Archimbald a été très influencé par ses carnets de dessin. Il a vu dedans les grilles, les monstres, des dessins de personnages composés entre animaux, monstres, êtres humains. Et il s'est inspiré de ses dessins.
Oui, pour sa carrière ultérieure, sûrement. Que nous allons voir plus en détail plus tard, bien entendu. Oui. Il découvre ses carnets.
Il travaille avec son père à la cathédrale de Milan. Alors là, c'est la première zone d'ombre parce que ce qu'on sait, on connaît peu de choses de son travail. On sait que la seule certitude que l'on a, c'est l'entité de ses émoluments qui est très bas.
Qui reste très modeste.
Oui, ça ne lui permettait sûrement pas de vivre. Donc, c'est la première zone d'ombre.
Il a fait quoi dans cet atelier avec son père
Il a travaillé au dôme comme travaillaient tous les artisans du dôme. C'est-à-dire qu'il faisait un peu tout. Il faisait aussi bien des décorations. Il travaillait sur des fresques, il travaillait sur des étendards, sur des blasons cardinalis,
tout ce qui avait
attrait à la cathédrale.
Oui.
Alors, il travaille aussi, on sait, il va travailler à Combes, puisqu'on présente même dans l'exposition cette grande tapisserie. Il fait un certain nombre de travaux, mais rien d'éclatant.
Oui.
Les émoluments qu'il touche sont...
Mais tout de même, on peut dire qu'il s'est fait la main quand même à cette époque.
Absolument, absolument. Mais ce qu'on sait ne justifie pas les années qu'il passe
ultérieurement à la cour des Habsbourg.
Et surtout, pourquoi il va à Vienne, sûrement.
Alors justement, pourquoi il va à la cour et comment? Alors c'est un mystère. Et
c'est un mystère parce qu'il n'est pas assez célèbre, apparemment, d'après ce que l'on sait.
Alors, quel âge à l'époque?
Quand il est appelé par les Habsbourg, il a 37 ans, 38 ans.
Oui, donc il a déjà quand même...
C'est un homme déjà formé.
Certaine vie derrière lui, oui.
Oui, il a déjà une vie derrière lui. Donc, il est appelé pourquoi? Alors, ça, c'est très difficile. Alors, Silvio Leddi, qui a écrit dans le catalogue de l'exposition, a vraiment épluché les archives de Milan. Et sa conclusion, c'est que sûrement, Archimbald était déjà connu à Milan pour l'organisation de fêtes importantes. Et probablement, c'est aussi l'explication, c'est peut-être ça qui lui aurait permis de vivre, puisque je disais tout à l'heure que ces émoluments étaient absolument insuffisants.
Oui. Donc, organisateur de fêtes, à l'époque, c'était...
Ça veut dire qu'il dessinait tous les costumes,
tous les chars, parce que
les fêtes étaient somptueuses.
Pas en tant qu'animateur, comme on dirait aujourd'hui.
Non, absolument pas. Il était le concepteur, il était le dessinateur. Il en était l'architecte.
Oui.
Il dessinait les costumes.
Déjà, donc, à l'époque.
Enfin, les fêtes étaient extrêmement importantes à l'époque.
À Milan.
L'art a fait des dessins de fêtes absolument prodigieux.
Oui.
C'était l'époque des grandes fêtes.
Oui. On suppose que l'empereur, je ne sais pas si c'était Ferdinand Ier ou Maximilien II, qui serait passé par Milan et qui aurait découvert petit génie d'organisateur de fêtes.
Quelqu'un en aurait parlé à l'entourage probablement de l'empereur et il aurait été appelé à Vienne. D'abord parce qu'il arrive à Vienne pas du tout comme un peintre extrêmement important. Il arrive à Vienne comme peintre de cour. C'est un titre très pompeux, mais en réalité, être peintre de cour, ça veut dire faire un peu tout. C'est-à-dire, on est à la disposition de la cour, on dessine aussi bien justement les costumes de fête que d'apparat. D'ailleurs, vous le verrez dans la première partie de l'exposition, il est copiste. Il arrive à Vienne comme copiste. Il copie des portraits de la famille Habsbourg.
Oui, qui n'ont rien à voir avec les portraits, avec les fameuses têtes anthropomorphes.
Absolument rien.
C'est du classicisme extrême.
À ce moment-là, il fait une peinture très classique. Son rapport avec Maximilien II, qui devient empereur, devient sûrement beaucoup plus étroit. Pourquoi, on ne le sait pas. Mais brusquement, la même année, il va passer de ses copies très classiques aux premières têtes anthropomorphes. Il va faire la première série des quatre saisons.
Et on n'a aucune trace de cette inspiration, on pourrait croire, d'après vos évocations subites. Tout d'un coup, il a cette idée, d'où peut lui venir cette inspiration?
Oui, mais les suppositions, c'est justement le fait de se rapprocher de Maximilien II et d'avoir accès à la Wunderkammer, c'est-à-dire à la Chambre des Merveilles. Et là, il a accès à tout ce qui arrive du monde entier, de nouveau, puisque Maximilien est entouré d'intellectuels brillants, de scientifiques,
de philosophes,
tout ce qu'il y a de plus important à l'époque. Et puis, c'est la découverte du nouveau monde. Donc, du nouveau monde arrive toute la nouvelle flore, la nouvelle faune. Maximilien en est très friand. Il a un véritable zoo à Vienne. Il a des animaux sauvages, il a des éléphants, il a des tigres.
Ah oui.
Ah oui, il fait venir tout ce qui arrive du nouveau monde et vraiment examiné.
C'est pas encore à Schönbrunn. Ça n'existait pas encore.
Non, non.
Non. Donc, il garde quelque part une ménagerie près de
il y a un véritable jardin zoologique. J'avoue que vous me posez une colle, je ne sais pas du tout où il est situé, mais il y a un véritable jardin zoologique.
Pour placer ses éléphants et autres tigres, il faut quand même un peu de place, mais enfin bon, on lui fait confiance. Il est attiré...
Sûrement, il a accès au cabinet de curiosité.
Complicité, peut-être.
Qui lui ouvre complètement l'esprit. Il découvre, d'ailleurs, dans le cabinet de curiosité, il va voir des têtes anthropomorphes, parce qu'il n'est pas le créateur, ce n'est pas le premier à faire des têtes anthropomorphes. Les antiques en faisaient déjà.
Oui.
Et dans le cabinet, il va voir, on sait qu'il y avait des dessins de têtes composées antiques. Il y avait aussi des camées. Plus tard, il va peindre ces tableaux qui sont reversibles.
Oui.
Et déjà, dans le cabinet, il y a des petits camées qui sont reversibles, qui sont des têtes reversibles. Oui.
Donc, si je comprends bien, il n'a pas vraiment inventé ce genre, mais il
non,
a eu quand même le déclic.
Il a développé d'une façon extraordinaire parce qu'il avait accès à toutes les nouveautés, à un matériel scientifique absolument exceptionnel, à des hommes exceptionnels. Et il a développé, il a évolué d'une façon absolument extraordinaire.
Oui. Et il a connu une éclosion de sa fibre artistique, mais comme vous venez de nous l'expliquer, peut-être grâce quand même à la Wunderkammer, à cette
sûrement la Wunderkammer,
chambre
sûrement,
des merveilles
est très importante.
Oui.
Sûrement, et lui a ouvert l'esprit et lui a montré des tas de choses extraordinaires. Et qui lui ont permis de faire le grand pas.
Et lui-même, vous disiez qu'il était très érudit.
L'homme était très érudit, c'est un homme très cultivé, il lisait beaucoup, il avait un contact avec les hommes de science, il écrivait, il était musicien.
Ah,
il avait même inventé un clavecin chromatique. C'est un homme extrêmement éclectique, mais très érudit. Mais comme l'étaient pas mal d'hommes de son époque, le plus grand a été sûrement Léonard de Vinci, mais les hommes de cette époque étaient... notre époque a séparé la science de l'art, mais à cette époque, elle était absolument fusionnelle.
Oui, oui. Et d'autant que le XVIe siècle était un siècle riche en découvertes scientifiques.
C'est extrêmement... Alors, très importante en découverte, puisque c'est la découverte du Nouveau Monde et toute cette nouvelle flore et cette faune, comme je disais, arrive. Mais aussi, on a des hommes absolument immenses dans le monde scientifique. Il y a la découverte, il y a la révolution de Copernic.
Bah oui, il faut...
Quelques années plus tard, naîtra Galilée.
Oui.
Ouais, c'est quand même des géants de notre
absolument.
Civilisation.
Absolument. Donc, il a connu tout ça et ça a influencé bien sûr son mental et aussi sa créativité.
Bien sûr.
Oui. Et donc, on comprend maintenant pourquoi avec Maximilien, qui était lui aussi un personnage ou en couleur, qui était aussi très près des hommes de science et des humanistes. Donc, on peut comprendre qu'une certaine amitié ou complicité s'est liée entre les deux hommes.
Oui, il y a une grande complicité intellectuelle.
Oui.
D'ailleurs, pour accepter les têtes anthropomorphes tout de suite, comme les a acceptées Maximilien, comme une allégorie au pouvoir, il fallait qu'il y ait entre les deux hommes une grande compréhension, une grande complicité.
Oui, donc ça répond presque à ma prochaine question, mais quand même, nous avons vu que Archimboldo avait donc plusieurs visages. Le peintre inventeur des têtes composées, qu'on vient de voir, et puis l'organisateur de grandes fêtes commandées par justement l'empereur Maximilien II. Il a créé de fabuleux décors et costumes. Archimbold. Et aussi, il était, comme vous venez de le dire, inventeur de machines au siècle, passionné de science et de technique, justement. Alors, un génie polyvalent, n'est-ce pas ? En Autriche, on l'appelle, et ce sera d'ailleurs le sous-titre de l'exposition qui sera ultérieurement visible à Vienne, au Kunsthistorisches Museum, on l'appelle le Leonardo de Habsbourg, c'est-à-dire il s'est vraiment inspiré depuis les carnets de Leonardo et à sa réalisation à la cour des Habsbourg. C'est tout un cheminement, mais c'était donc un génie polyvalent.
Un génie polyvalent, absolument. Oui. Une autre attribution d'Archimbold, hein. Archimbold était un négociateur extrêmement habile.
Ah.
Et donc, les empereurs, aussi bien Maximilien que plus tard Rodolphe, l'utiliseront pour aller négocier l'achat des curiosités.
Ah oui. Donc, c'était vraiment l'homme à tout faire, mais en même
absolument,
temps,
oui,
quelle promotion quand même, oui, oui. Et puis, il y a ce mystère d'où lui est venue cette inspiration, vous l'avez quand même déjà presque trouvé une réponse déjà, parce que ça vient de sa formation d'artisan à Milan, où déjà son esprit est ouvert et très très curieux pour tout ce qui est nouveau et toutes les inventions de
oui,
ce siècle, les inventions scientifiques ou artistiques.
Oui, et puis sa formation milanaise avec l'OMATS à l'Académie de Val di Blegno est très importante parce que nous sommes dans une époque, quand il grandit, nous sommes dans une époque de contre-réforme. Donc à Milan, il y a au pouvoir, il y a le cardinal Borromée qui est extrêmement rigoureux et qui impose aux artistes une iconographie religieuse extrêmement limitée.
Strict, ouais.
Alors que le groupe de l'Accademia di Val di Blegno, qui a pas mal d'élèves de Léonard, est un groupe beaucoup plus libéral. Ils sont beaucoup plus près de Bacchus que de l'iconographie religieuse. Et ça, c'est très important dans sa formation.
Oui, aussi, oui, oui. Et puis, à la cour impériale des Habsbourg d'Autriche, comme on dit, Maximilien II avait, paraît-il, un rôle particulier. Donc, nous l'avons déjà un peu frôlé, ce rôle. Mais il y a une différence peut-être aussi entre Maximilien II et plus tard Rodolphe II, son fils. Et à votre avis, il était très proche de l'un ou de l'autre, ou des deux, ou à quel degré ?
Je pense qu'il était très ami, il était très proche de Maximilien, mais la vraie profonde complicité, et le vrai lien d'amitié complice, il l'aura avec Rodolphe II.
Oui, oui. Parce qu'ils partagent le même intérêt sur l'ésotérisme.
Oui, ils ont beaucoup d'intérêts communs. Ils ont Rodolphe II est un très étrange personnage, c'est un solitaire, c'est une espèce d'Hamlet. Il vit isolé dans son château, il voit très peu de monde. Et Rodolphe est très proche de lui. Et sûrement, ils évoluent ensemble et leur rapport avec le monde de la science, le monde de l'art est extrêmement fort. Et puis, il y a aussi l'ésotérisme.
Oui.
Qui les intéresse beaucoup. Et puis, il y a aussi toute cette partie d'intérêt pour tout ce qui est transgression à la nature.
Mm-hmm.
Alors, si Maximilien s'y intéresse, Rodolphe arrive vraiment au maximum.
Il fait collection obsessionnelle.
D'une façon obsessionnelle, il fait collection de tout ce qui est anormal. Depuis les perles curieuses déformées, il arrivera jusqu'à avoir dans son cabinet des fœtus d'enfants morts-nés.
Oh, eh ben voilà une curiosité. Écoutez, après ce saut dans le passé, on peut dire quand même glorieux des Habsbourg, accordons-nous une courte pause.
Thank you. écoutez Canal Académie.
Archimboldo est le héros de notre émission aujourd'hui. Et nous sommes ravis de nous entretenir avec Madame Patricia Nitti, directrice des projets Renaissance au Musée du Luxembourg à Paris, à l'occasion de la première exposition monographique au monde consacrée à ce surprenant artiste du XVIe siècle. Puis-je vous proposer, Madame, maintenant, de nous faire visiter l'exposition. Elle va nous aider à retracer un peu l'évolution d'Archimboldo et à mieux mesurer toute la richesse de son univers.
Avec plaisir. Alors, vous allez rentrer dans l'exposition, dans une première salle où vous serez surpris parce que vous allez trouver une grande vidéo, parce que Archimboldo commence son travail donc au Dôme de Milan, et parmi le travail qu'il fait, il fait les cartons pour les vitraux de la cathédrale. Donc nous vous projetons un vitrail de la cathédrale de Milan, puis vous verrez, il y a les mémoires de Lomazzo, des biographes de Archimboldo. Puis vous allez voir un portrait de Lomazzo, un autoportrait, Lomazzo dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est devenu après un de ses biographes et son ami, mais qui était un très important personnage de la peinture et qui a écrit le temple de la peinture. Il avait divisé la peinture, il avait fait un temple avec des colonnes et chaque colonne correspondait à une discipline de la peinture. Après, vous allez voir l'autoportrait. Il y a l'autoportrait d'Archimboldo. Alors, c'est la première chose un petit peu curieuse, puisque c'est un autoportrait qu'il fait vers la fin de sa vie. Il est important, en plus, parce qu'il nous a permis de recadrer son âge, puisque pendant très longtemps, on a cru qu'il était né en 1527, alors que grâce à ce dessin, on a pu savoir qu'il était né en 26. Puisqu'il date ce dessin et il écrit son âge. Donc, on a pu revenir à sa vraie date de naissance. Oui. Et donc, c'est un autoportrait très amusant parce qu'il est fait avec des feuilles de papier. C'est une infinité de petites feuilles de papier. C'est la première curiosité, c'est le premier jeu que vous verrez d'Archimboldo. Puis, vous allez voir une très grande tapisserie qu'il a fait pour la cathédrale de Côme, qui est une cathédrale très importante. C'est la première fois, c'est une tapisserie qui sort pour la première fois de Como. Donc, ça a été une entreprise parce que, au bout de tant d'années, au bout de plus de 500 ans, il a fallu la sortir, la démonter. Elle était presque invisible, recouverte par le gras de l'huile des bougies.
Ah oui.
Elle a été magnifiquement nettoyée à Vienne, oui. Et on la voit très bien, elle est magnifique. C'est une Dormition de la Vierge. C'est un travail très classique. La seule chose qui fait deviner Archimboldo, c'est la fresque. Tout le tour de la tapisserie est extrêmement riche d'éléments végétaux.
Et c'est toujours bien conservé.
C'est magnifiquement bien conservé. Oui. Elle a été nettoyée. Elle a des couleurs d'une brillance absolument incroyable. Mm-hmm. Elle est magnifique.
Oui.
Après, vous allez voir, il y a un dessin des métiers, dès le début, il s'intéresse très jeune aux métiers. Puis vous allez voir un très beau portrait de Bernardino Luini, justement parce que Bernardino Luini a permis à Archimboldo de découvrir Léonard de Vinci,
oui,
qui sera très important après, sûrement, oui, dans sa carrière. Puis vous allez rentrer dans la deuxième salle où on fait un hommage aux trois générations d'empereurs. Parce que c'est son arrivée à Vienne.
Ferdinand Ier, Maximilien II,
Rodolphe II. Il y a des portraits de l'empereur, puisque comme ça, vous pouvez vous rendre compte de l'époque dans laquelle il vivait. Et puis, alors, vous allez être très, très étonnés, parce que vous attendez à voir des têtes composées. Et vous allez voir magnifiques portraits classiques qui sont tout à fait dans le goût de la Renaissance, tardive, un peu...
Qui se ressemblent énormément, les différents portraits des archiduchesses,
etc. Oui, ce sont des portraits de la famille Habsbourg, parce que quand Archimboldo arrive à Vienne, on lui demande de copier des peintures Habsbourg. Donc, on a attribué une série d'archiduchesses, et puis un très grand portrait de famille. Et là, on est sûr que c'est une copie, parce que quand Archimboldo le peint, Rodolphe, qui est représenté dans le tableau comme un enfant de 3 ans, a 13 ans. d'après la date. Donc, il est évident que c'est un tableau copié.
Mais c'est un très, très beau tableau, je dois
dire. C'est un très, très beau tableau, oui.
Il a beau être classique, mais c'est vraiment très réussi quand même, oui.
Et puis, alors, à votre gauche, vous allez découvrir une chose très amusante. Il y a une assiette de Castelfranco qui est une tête composée. Et, aux surprises, quand on s'approche, ce sont des phallus. C'est une tête composée, ça s'appelle testa di cazzi.
Déjà, la première curiosité,
c'est un visage humain fait de phallus. Et puis, il y a une petite médaille qui représente l'Arétin, qui était un personnage terrible, qui a été le mentor du Titien, qui était vraiment un personnage terrible. Et il le représente, ils font son portrait toujours avec des phallus. Et alors, dans cet univers d'abord très classique et puis qui commence à être amusant, alors là, découverte au fond de la salle, vous allez voir le premier tableau des quatre saisons.
Oui.
Alors,
qui est aujourd'hui...
Il est à Vienne.
À Vienne, oui. Parce qu'il y a donc plusieurs versions.
Oui, parce qu'il a peint... Il y a eu une première série des quatre saisons, dont deux aujourd'hui sont disparues, deux sont à Vienne. À Vienne, il y a l'hiver et l'été, il manque le printemps et l'automne. Mais on les verra, puisque quelques années après, une dizaine d'années après, Archimboldo, pour complaire à la cour qui le lui demande, il va en faire un certain nombre de copies et il va recopier les quatre saisons. Donc aujourd'hui, grâce à cette série qui aujourd'hui est au Louvre, nous connaissons le tableau qui manque à Vienne.
Et comment ça, il a disparu ? On sait pas.
Ils ont disparu, on ne sait pas. Un incendie, un vol, une destruction, on ne sait pas. Ce tableau aujourd'hui n'existe plus.
Il y a la série des quatre saisons qui sont au Louvre.
Oui.
À Vienne, il y a les deux.
Alors, rentrant, vous allez voir ce premier tableau. Et puis, on a fait un déploiement de cette tête composée. Et avec la multiplication de ces têtes composées, parce que c'est très important, elles ont un tel succès tout de suite qu'on demande à Archimboldo de les reproduire. Et toute la cour lui en demande des reproductions.
Pour les offrir éventuellement aux invités prestigieux.
Oui, parce que c'est une manifestation du pouvoir. C'est l'abondance et le pouvoir.
Oui.
Donc, l'empereur a plaisir à ce que ces tableaux soient divulgués.
Et puis, à l'époque, est constituée la très fabuleuse et fameuse collection du Kunsthistorisches Museum, qui date des Habsbourg.
Bien sûr,
c'est évidemment grâce aux empereurs, peut-être Maximilien et plus tard Rodolphe.
Qui ont constitué cette splendide collection.
Voilà.
Vous avez la chance d'avoir aujourd'hui.
Oui, et que tout le monde peut d'ailleurs aller visiter. On voit cette très grande salle avec comparaison des différents...
Alors, la différence
Différentes
des têtes composées.
Anthropomorphes, oui.
Nous avons essayé de faire un clin d'œil en réalité à ce qu'avait pu être la Wunderkammer de Maximilien II. Alors, dans le cabinet, on sait que travailler côte à côte des scientifiques et des artistes, arriver dans ce cabinet, la faune la plus étrange et la flore, et que tout ça a été répertorié et catalogué. Et on sait qu'Archimboldo a travaillé sur ses projets et sur ses éléments pour pouvoir les cataloguer. Alors, à l'entrée de la Suisse, il y a ces deux grands dessins de Giorgio Liberale qui sont des dessins de mollusques, qui sont de véritables merveilles d'observation, une prouesse absolument de dessinateur. Puis vous avez donc la série des têtes composées. Vous avez un certain nombre d'objets pour essayer d'expliquer que ce qu'on appelait les naturalia, c'est-à-dire tout ce qui partait de la nature et avec lequel on pouvait faire des objets magnifiques. Il y a au centre de la pièce les quatre saisons, qui sont quatre sculptures magnifiques et qui étaient les bases d'une fontaine qui se trouvait dans le cabinet de Maximilien II.
Et qui était exécutée par qui ?
Van de Velde. Et... les quatre saisons, c'était toujours évidemment les quatre âges de la vie. C'était
bien sûr,
la reproduction continue de l'allégorie
absolument claire. Oui. On n'a pas besoin d'insister parce que c'est tellement connu, mais c'est évidemment une découverte à chaque fois nouvelle, tellement merveilleuse qu'on peut quand même le souligner, même si c'est déjà très très connu.
Ah oui, et dans cette salle, il y a une sculpture stupéfiante, une petite sculpture. Alors, ça peut être Dali, ça peut être Max Ernst, c'est un contemporain d'Archimboldo. C'est d'une modernité absolument étonnante. C'est une véritable sculpture surréaliste. Ça s'appelle La Lune.
Ah.
Et vraiment, si vous l'enlevez de son contexte, c'est d'une modernité stupéfiante.
Oui, oui. Et comme vous... Archimbold d'ailleurs aussi, parce que ce n'est pas étonnant qu'il ait été redécouvert au XXe siècle par les surréalistes.
Oui, absolument.
Donc il est quand même aussi très très moderne, hein, déjà.
Et donc...
Et ensuite, nous avons une salle avec plein d'objets.
Après ce cabinet de Maximilien, on passe à la seconde salle où il y a un certain nombre d'objets. Il y a, approchez-vous, parce que vous allez avoir une surprise, vous allez voir sur le mur 4 portraits de têtes composées. Mais si vous vous approchez et vous baissez la tête, vous allez voir une vitre et dans la vitre, vous allez découvrir ces paniers de fruits et ces plats brusquement deviennent des portraits.
Oui, donc c'est le ça jeu. Ça c'est quand même très spectaculaire.
Amusant. C'est le jeu des portraits inversés. Donc on vous a monté un système de miroirs qui vous permet de voir les visages. C'est très amusant.
Et ça, c'est aussi la première fois alors qu'on a l'occasion de voir ces portraits inversés ou réversibles grâce à ce système de miroir, de voir en même temps donc, la coupe de fruits ou de légumes avec les oignons, etc. Et en les retournant, on découvre cette tête composée des mêmes fruits et légumes. C'est impressionnant.
Dans cette salle, vous avez un certain nombre de gravures qui représentent personnages composés de métiers, mais qui ne sont pas d'Archimbold. Mais c'est pour montrer que justement, ce n'était pas une chose exceptionnelle d'Archimbold à l'époque, c'était une chose qui se faisait. Et puis, il y a des tableaux absolument extraordinaires. Vous allez voir d'abord, il y a le juriste, qui est un tableau vraiment alors très impressionnant. Il est d'une laideur absolument repoussante. C'est un personnage proche de l'empereur. Il avait eu très jeune une terrible vérole et ça l'avait absolument défiguré.
Et puis, il ne devait peut-être pas être de caractère très sympathique.
Il était de caractère très austère, mais il était en plus d'une laideur effroyable. Et on le reconnaît parfaitement bien, mais il a un poulet à la place du nez, à la place de la barbe, il a la queue d'un poisson qui sort, mais c'est absolument extraordinaire. Il est parfaitement ressemblant au personnage de l'époque.
C'est quand même une caricature un peu dure.
Très, très dur, oui.
Et on ne sait pas ce qu'il en a pensé, le personnage en question.
Et puis, il y a le bibliothécaire. Alors ça, c'est un tableau tout à fait étonnant. Il a peint ce bibliothécaire qui existe réellement et il en fait un portrait avec tous les objets de la bibliothèque, avec les livres, avec... Picasso s'en servira plus tard. Il jouera et il fera un portrait cubiste.
En
partant du bibliothèque.
Du bibliothécaire, oui. Mais écoutez, il nous reste justement à regarder quelques œuvres plus en détail, comme on vient de commencer. Je vous propose un autre court intermède musical.
Canal Académie.
Nous sommes toujours en compagnie de Patricia Nitti, directrice des projets Renaissance au Musée du Luxembourg, à qui je vais demander donc maintenant de bien vouloir nous détailler particulièrement les derniers tableaux, parce que donc après son long séjour, je crois quelque chose comme 25 ans à la cour des Habsbourg, il demande à retourner à Milan. Mais je crois qu'il avait une autorisation particulière, n'est-ce pas, de
oui,
la part de Rodolphe.
Voilà, il demande, après avoir vécu très très longtemps donc à Vienne, il va à Prague, à la cour de Rodolphe II, et il est fatigué, il veut rentrer définitivement à Milan. Et il négocie son départ avec difficulté, Rodolphe II n'est pas du tout disposé à le laisser partir facilement, et puis à la fin, ils ont un accord, Archimbold rentre, hein. Mais il continuera à peindre pour Rodolphe II et il lui enverra ses tableaux. Et il continuera pour lui à négocier des curiosités à Milan. Il recevra, et on trouvera d'ailleurs après sa mort dans son atelier, des objets extrêmement précieux, extrêmement chers. Donc il est évident que Archimbold ne les avait pas achetés pour lui, mais bien pour Rodolphe. Pour
qui sont
l'envoyer.
Conservés quelque part ?
Ils ont été donnés dans les musées, mais ah. ils sont en partie à Florence, en partie à Vienne.
Oui, et donc alors, il peint donc de retour à Milan, il peint deux importants tableaux qui sont La Flore et Vertum.
Oui, quand il rentre, il peint et il envoie à Rodolphe les deux derniers tableaux, qui sont des tableaux peut-être plus raffiné encore que ce qu'il a fait pour Maximilien. Parce que leur complicité intellectuelle, et là, il aborde la mythologie. Et il envoie La Flore, qui est un ravissant portrait, qui est Flore, hein, la déesse
des fleurs. Oui, des fleurs, bien sûr, oui.
Et le Vertum, qui, Vertum pour les Latins, c'était le dieu de la nature, c'était le dieu des saisons, donc de l'infinie reproduction et du pouvoir absolu. Et le Vertum, c'est le portrait de Rodolphe II.
Oui.
Alors, il y a dans ce portrait une abondance absolue de tous les légumes et les fruits les plus rares. Et il y a une quantité, une profusion de ces végétaux. Et c'est une façon de montrer le pouvoir absolu, la richesse.
Comme vous dites, oui.
Le pouvoir absolu. Alors, il lui envoie ces deux tableaux et Rodolphe sera tellement impressionné par ce tableau qu'il lui conférera l'ordre de comte palatin, qui est une décoration extrêmement importante que seul Titien avait eue. Ça lui avait été conféré par Charles Quint. C'est une décoration extrêmement importante.
Grâce à cette décoration si importante, il s'invente une biographie.
Oui, je reviens, on revient au début
de la boucle, voilà.
On referme la boucle, c'est-à-dire que oui, il est tellement impressionné par cette décoration si importante qu'il veut justifier cette décoration en s'inventant des origines nobles et précorolingiennes.
Oui. On lui pardonnera.
Mais dans l'exposition, à la fin de l'exposition, vous allez voir un autre tableau, pour nous très important, parce que nous l'avons redécouvert. Ça a été une émotion absolument extraordinaire. C'est un tableau qui avait disparu depuis 1650. La dernière fois qu'on en avait la trace, c'était dans un inventaire en 1650, et puis le tableau disparaît. Et puis, quand nous avons commencé à travailler sur l'exposition, un de mes amis, qui est un grand spécialiste de Caravage, est venu me voir en me disant « Moi, j'ai vu un Archimbold inédit. » Mais je veux le voir tout de suite. Il m'a dit « Il n'en est pas question, il appartient à un collectionneur et je n'ai absolument pas le droit d'en parler. » Les collectionneurs sont très jaloux. Et ça, il y a vraiment une omerté absolue.
Ouais.
Et j'ai beaucoup insisté. Et il m'a dit « Écoute, moi, je peux te donner la photo. » Il m'a donné la photo, on a fait une recherche immédiatement et le tableau est extrêmement documenté par un poème de Comanin. C'est un tableau très important et très documenté. Ce sont les quatre saisons en une. Et donc, on a commencé une véritable chasse au trésor.
Oui.
J'ai commencé à écumer tous les marchands, mes amis collectionneurs. Et je dois dire qu'au bout de 3 mois, aux surprises, j'ai eu un canal et j'ai découvert qui était le propriétaire.
Ah oui,
un Américain,
on va peut-être pas.
Charmant.
Ah oui.
Et oui.
Je pensais ne pas dévoiler son nom, mais
non,
s'il n'est pas contre.
C'est un Américain absolument charmant et il nous a prêté très gentiment le tableau parce que il a compris l'importance de l'exposition et combien retrouver ce tableau était important. Et quand justement, en Autriche, on parle de Léonard et Hepburn, il y a vraiment quelque chose dans une partie du tableau de Léonardesque.
Oui, oui, il est absolument extraordinaire. D'ailleurs, on va essayer peut-être, avec la permission de ce collectionneur, de le mettre sur la page d'accueil de notre site, de Canal Académie.
Pour le lui
demander. On va voir ça pour les droits. Oui, oui, tout à fait, oui. Alors, il finit vraiment, on peut dire, en beauté, avec la flore, avec Vertum, donc le portrait de Rodolphe II. Et puis cette découverte absolument sublime, cette peinture inédite des quatre saisons que vous venez de nous décrire.
Quand il rentre à Milan, il mourra quelques années après, comme on l'a dit au courant de toute l'émission, on ne sait rien de lui,
oui,
de sa vie, on ne sait pas s'il a été marié. On sait par contre qu'il a eu un enfant quand il avait un peu moins de 50 ans. Et on sait que cet enfant existe parce qu'il a été légitimé par Maximilien II.
Mais donc, c'est quand même une petite trace
voilà,
qui a été...
Et on sait que cet enfant, quand il rentrera à Milan, il l'emmènera avec lui. L'enfant a 13 ans quand il rentre à Milan et il le ramène avec lui. Ce que devient l'enfant, on n'en sait rien. Il n'a rien dû faire de fameux parce qu'on a perdu complètement ses traces. Mm-hmm. Mais on ne sait même pas avec qui il a eu cet enfant.
Oui. Donc vraiment, sa vie privée est complètement recouverte de mystères.
Et quand il rentre à Milan, il va dicter sa biographie à trois intellectuels. Mais il va complètement omettre Milan. Toute la première partie de sa vie, il n'en parle pas. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il pense que ça n'est pas assez important.
Sa vie...
Mais il n'en parle jamais.
À la cour des Habsbourg était vraiment la partie la plus importante,
bien entendu.
Il commence
sa carrière quand il dicte ses biographies.
Ça se comprend. S'il s'est inventé une autre origine, ce n'était pas la peine de trop fouiller dans sa vie jusqu'à 36 ans à Milan, puisque ça n'aurait pas correspondu à la réalité.
Oui, mais enfin, il aurait pu parler du travail qu'il avait fait à Milan. Et il saute complètement. Il ne dit pas un mot.
Oui, oui, c'est quand même curieux.
Son travail à Milan.
Oui, oui. Encore une question quand même au sujet des tableaux les plus importants ou les plus connus, en tout cas de la série des saisons, par exemple, ou aussi dans les éléments. Nous constatons une assez grande similitude, les mêmes éléments qui composent le portrait, etc. Y a-t-il une méthode Archimboldo ? On peut dire ça ?
La méthode Archimboldo, c'est le macrocosme, c'est-à-dire le tout,
oui,
harmonieux, pour arriver au microcosme complètement dissemblable, comme si le chaos de la nature se recomposait en harmonie.
Avec des éléments de la vie quotidienne.
Oui. Et se recomposer harmonieusement. C'est-à-dire que le chaos total se recomposait harmonieusement.
C'est très, très intéressant. Et avant de nous quitter, pourriez-vous peut-être nous parler de l'influence d'Archimboldo sur les artistes des générations ultérieures ? Enfin, on connaît déjà sa redécouverte par les surréalistes. Mais encore d'autres influences ?
Écoutez, c'est très intéressant parce que, en fait, c'est un auteur extrêmement moderne. Dans la génération précédente, c'est-à-dire dans la génération des gens qui ont aujourd'hui 70 ans, ou qui ont vécu et qui ont travaillé avec une dramatisation de l'histoire de l'art, ils ont détesté Archimboldo. Ils l'ont classé presque comme un anecdotique. Les jeunes se sont de nouveau intéressés parce qu'ils ont une approche à l'histoire de l'art complètement différente. D'abord parce qu'on a des supports complètement différents. Il y a la publicité, il y a le graphisme qui a récupéré énormément Archimboldo. Donc il y a une vision complètement, une approche complètement différente d'Archimboldo.
Oui.
Et puis on s'aperçoit d'une chose aussi très étonnante, c'est qu'au fond, Archimboldo, dans une société multiraciale comme la nôtre, où pour les enfants des écoles, c'est très difficile de comprendre notre iconographie classique. Souvent, ils ne sont pas chrétiens.
C'est
très difficile. Ils voient nos peintres et pour eux, c'est très, très difficile.
Oui, la vie
de
Jésus par Giotto, ce n'est pas forcément clair.
Alors qu'Archimboldo est le seul peintre aujourd'hui à être lisible, pas au premier degré évidemment, mais par n'importe qui, au premier abord, sur n'importe quel continent.
On peut le prendre ne serait-ce que sur le plan ludique, déjà. Mmh. Oui,
voilà.
Absolument.
Donc, je pense que c'est pour ça qu'il a un tel succès, parce qu'il est lisible par tous.
Et sa place dans l'histoire de l'art, est-ce qu'elle en est changée ou...
Alors ça, c'est un grand débat. C'est un grand débat. Je pense que d'un pays à l'autre, on n'a pas la même opinion. J'espère qu'on arrivera à convaincre certaines générations qui ont été plus austères.
Et notamment grâce à cette importante exposition monographique, parce que là, on rentre dans les profondeurs du personnage de l'artiste.
Et comprendre mieux le personnage. Oui. J'espère que cette exposition, vraiment, a donné une lumière nouvelle au personnage.
Oui. Écoutez, Madame Patricia Nitti, merci beaucoup de nous avoir permis de pénétrer justement dans le monde original et combien fantastique de cet artiste. Je rappelle à nos auditeurs l'importante exposition monographique qui fut organisée au Musée du Luxembourg à Paris en automne 2007, en collaboration avec le Kunsthistorisches Museum de Vienne. Ce même musée la recevra d'ailleurs dans ses murs du 11 février au 1er juin 2008. Et outre la présentation de ces incomparables têtes composées en provenance de collections privées et muséales du monde entier, une importante sélection d'œuvres graphiques réalisées depuis ses années de formation justement à Milan, à celle au service des Habsbourg, permettra d'apprécier l'étendue du talent et l'extraordinaire richesse allégorique et formelle de l'univers pictural d'Arcimboldo. Merci beaucoup, madame.
Merci à vous.